Chapitre 1. Ma maladie a été découverte grâce à ma grande sœur quand j'avais 3 ans. Notre mère d'accueil l'a surpris les ciseaux à la main, en face de moi, qui tendait docilement mes bras nus. Du sang dégoulinait de mes poignets sur l'épaisse moquette vert olive. Ma sœur, 6 ans, dit « Regarde, ça ne lui fait rien du tout !» Et elle me tailla l'avant-bras d'un coup de lame. Du sang frais monta. Notre mère d'accueil poussa un grand cri et perdit connaissance. Alors je la regardai, allongée par terre, sans comprendre. Après cet épisode, ma sœur s'en alla et on me conduisit à l'hôpital. Là-bas, les médecins passèrent des semaines à pratiquer divers examens qui auraient dû être plus douloureux que les soins acérés prodigués par ma sœur, mais on s'aperçut que c'était justement le problème. En raison d'une mutation extrêmement rare du gène SCN9A, je ne sens pas la douleur. Je suis sensible à la pression, celle des ciseaux sur ma peau, à la texture, le poli des lames fraîchement aiguisées. Mais la sensation précise de la peau qui s'ouvre, du sang qui perle, je ne sens pas ce que vous sentez. Depuis toujours, et ça ne changera pas. Après que Shana m'avait tailladé les bras avec ses grands ciseaux de couture, je ne l'ai pas revue pendant 20 ans. Ma sœur a été trimballée d'établissement en établissement, et elle a eu le triste privilège de faire partie des plus jeunes enfants placés sous neuroleptique dans le Massachusetts. Elle a commis sa première tentative de meurtre à l'âge de 11 ans, pour finalement réussir son coup à 14. L'atavisme familial. Mais pendant qu'elle devenait une énième victime du système, je devenais officiellement un modèle de réussite. Avec la maladie qu'on m'avait diagnostiquée, les médecins n'étaient pas convaincus qu'une famille d'accueil saurait m'apporter les soins nécessaires. De fait, on avait vu des bébés atteints de la même mutation génétique se mordre la langue au point d'en sectionner un bout pendant qu'ils faisaient leurs dents. Il y avait aussi ces bambins qui s'étaient brûlés au troisième degré parce qu'ils avaient posé les mains sur des plaques de cuisson chauffées au rouge et qu'ils ne les avaient pas retirées. Sans parler de ceux qui, à 7, 8, 9 ans, galopaient des jours entiers sur une cheville cassée ou tournaient de l'œil parce que leur appendice venait de se rompre alors qu'ils n'avaient même pas senti qu'il était enflammé. La douleur est très utile. C'est un signal d'alarme qui vous apprend à reconnaître le danger et à prendre conscience des conséquences de vos actes. Sans elle, sauter du toit peut paraître une excellente idée. De même que plonger la main dans un bac d'huile bouillante pour attraper la première frite, ou s'arracher les ongles avec des tenailles. La plupart des enfants qui présentent une insensibilité congénitale à la douleur expliquent agir sur des coups de tête. Pour eux, la question n'est pas « pourquoi ?», mais « pourquoi pas ?». D'autres, cependant, vous répondent avec des accents de regret qu'ils voulaient voir si ça ferait mal. Parce que sentir ce que tant de gens sentent peut devenir le Graal de toute une vie. Une puissante motivation. Une constante obsession. Le plaisir de connaître enfin la douleur. Les enfants qui souffrent de troubles de perception de la douleur ont un taux de mortalité élevé. Peu de mes semblables atteignent l'âge adulte et la plupart exigent une surveillance de chaque instant. Dans mon cas, un des généticiens de l'équipe, un homme relativement âgé qui n'avait ni femme ni enfant, a fait jouer ses relations pour me recueillir chez lui. Je suis ainsi devenue sa fille adoptive chérie en même temps que son sujet d'étude préféré. Mon père était un homme bien. Il n'engageait que la crème des nounous pour veiller sur moi 24 heures sur 24 et consacrait ses week-ends à m'apprendre à vivre avec ma maladie. Par exemple, en l'absence de sensations douloureuses, il faut trouver d'autres méthodes pour repérer ce qui pourrait menacer votre intégrité physique. Petite, j'ai appris que l'eau bouillante était synonyme de danger. Idem pour les plaques de cuisson rougies par la chaleur. Je tâtais d'abord les objets pour en connaître la texture. Tout ce qui était coupant, je devais m'en tenir éloigné. Pas de ciseaux pour moi, ni de meubles aux angles vifs. Pas non plus de chatons, de chiots, ni autres créatures aux griffes acérées. Toujours marcher, ne pas sauter, ne pas glisser, ne pas gambader, ne pas danser. Quand je sortais, je portais en permanence un casque et de solides protections. Et quand je rentrais, on me retirait mon armure, et on vérifiait que mon corps n'avait pas subi de traumatisme. Comme le jour où mon pied a tourné sur lui-même à 180 degrés quand ma nourrice m'a retiré ma chaussure. Je m'étais arraché tous les tendons pendant une promenade au jardin public. Ou cette autre fois, où j'étais revenue couverte de piqûres. J'étais tombée sur un nid de frelons et avec la naïveté d'une enfant de 5 ans, j'avais cru qu'il dansait avec moi. En grandissant, j'ai appris à faire moi-même mon bilan de santé. Prise de température quotidienne, la fièvre pouvant permettre de détecter une infection. Tous les soirs, inspection. Nue devant un miroir en pied, j'examine chaque centimètre de peau à la recherche de contusions ou de coupures. Puis, je passe en revue mes articulations pour vérifier qu'elles ne présentent ni enflure ni signe de lésion. Ensuite, les yeux. Un œil rouge est un œil qui ne va pas bien. Examen des oreilles. La présence de sang dans le conduit auditif pourrait être l'indice d'un tympan percé et ou d'un traumatisme crânien. Enfin, les cavités nasales, l'intérieur de la bouche, les dents, la langue, les gencives. Mon corps, mon enveloppe terrestre, est un objet utile qu'il convient de surveiller, d'entretenir et de soigner. Je me dois d'en prendre un soin tout particulier, puisque faute de canaux moléculaires qui conduisent les signaux électriques des nerfs sensibles à la douleur jusqu'au cerveau, il ne sait pas se protéger. Ceux qui souffrent du même mal que moi ne peuvent pas se fier à leur toucher. À la place, ils doivent s'en remettre à la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Domination de l'esprit sur la matière, ne cessait de répéter mon généticien de père. Une discipline à acquérir. Quand j'ai atteint l'âge de 13 ans, sans avoir succombé à un coup de chaleur, une infection ou une banale négligence, mon père a poussé ses recherches un cran plus loin. Car si seuls quelques centaines d'enfants dans le monde étaient porteurs de cette anomalie, nous n'étions plus qu'une quarantaine encore en vie au seuil de l'âge adulte. Or, les études de cas avaient mis en lumière d'autres fragilités liées à une existence exempte de tout inconfort physique. Par exemple, de nombreux sujets avaient montré un manque de compassion pour autrui, des retards de développement émotionnel et des difficultés de socialisation. Mon père adoptif a donc ordonné un bilan psychologique complet. Étais-je capable de percevoir la douleur des autres? De reconnaître des signes de détresse sur le visage d'un inconnu? De réagir de façon appropriée devant la souffrance de mes semblables? Après tout, si vous ne pleurez jamais quand vous vous blessez avec une feuille de papier, verserez-vous des larmes quand à 16 ans votre meilleur ami coupera brusquement les ponts avec vous en vous traitant de monstre? Si vous êtes capable de marcher des kilomètres avec un genou en vrac, votre cœur se serrera-t-il quand à 23 ans votre sœur biologique reprendra contact avec vous et que la lettre portera le cachet de l'administration pénitentiaire? Et si vous n'avez jamais connu une seule seconde de souffrance physique, pourrez-vous réellement comprendre votre père adoptif lorsque, dans son dernier souffle, il vous dira d'une voix entrecoupée en étreignant votre main « Voilà, Adeline, c'est ça, la douleur ». Seul dans mon coin à son enterrement, j'avais l'impression de comprendre. Mais en digne fille de mon père, je me rendais aussi compte que je ne pourrais jamais en avoir la certitude. Alors j'ai fait ce qu'il m'avait appris à faire. Je me suis inscrite en doctorat dans une université de premier plan, pour étudier, conduire des expériences, mener des recherches. J'ai fait de la douleur mon métier, et une spécialité utile à plus d'un titre. Lorsque j'arrivais au pénitencier pour femmes, ma sœur m'attendait. Je signai les formulaires, fourrai mon sac à main dans un casier et attendis mon tour pour franchir les contrôles de sécurité. Chris et Bob, deux surveillants qui travaillaient là de longue date, me saluèrent par mon prénom. Bob passa son détecteur au-dessus de mon bracelet médical, comme il le faisait tous les premiers lundis du mois. Ensuite, Maria, leur collègue, m'accompagna jusqu'au parloir privé où se trouvait ma sœur, les mains attachées sur les genoux. Sur un signe de tête de Maria, j'entrai dans la pièce. Celle-ci, grande comme un mouchoir de poche, était meublée de deux chaises en plastique orange et d'une table en formica. Shana était assise à un bout de la table, dos au mur en parpaing, le regard tourné vers l'unique fenêtre qui donnait sur le couloir. La place du tireur. Je m'adjugeai le siège en face d'elle, exposant ainsi mon dos aux passants.
Je pris mon temps,
tirai la chaise, adoptai une position étudiée. Une minute s'écoula, une autre. Ma sœur fut la première à prendre la parole. « Enlève-moi cette veste !» Sa voix trahissait déjà son agitation. Quelque chose lui avait mis les nerfs en plot, sans doute avant ma visite, mais on ne pouvait pas en déduire que ce ne serait pas moi qui payerais.
« Pourquoi ?»
Elle m'avait donné son ordre sur un ton crispé, mais j'avais répondu avec un calme délibéré. « Tu ne devrais pas t'habiller en noir. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète ? Le noir te rend terne. » Il fallait entendre ça dans la bouche d'une femme en combinaison bleu morne et dont les cheveux pendouillaient en mèches grasses et en mêlées. Ma sœur avait peut-être été jolie autrefois, mais les années à vivre à la dure et sous les néons l'avaient abîmée. Sans parler de la froideur de son regard. Je retirai mon blazer Anne Taylor parfaitement ajusté et le suspendis au dossier de ma chaise. En dessous, je portais un haut gris à manches longues. Ma sœur regarda mes bras couverts d'un air furieux. Ses yeux marrons plantés dans les miens, elle huma l'air plusieurs fois, la mine interrogatrice. Aucune odeur de sang, finit-elle par constater. Inutile de prendre cet air déçu. Facile à dire. Je passe 23 heures par jour à contempler les mêmes murs de béton blanc. Tu pourrais au moins avoir la bonté de venir avec une petite estafilade. Ma sœur prétendait pouvoir sentir l'odeur de cette même douleur que je n'éprouvais pas. Rien de scientifique dans cette affirmation, juste l'expression de son complexe de supériorité. Et pourtant, il était arrivé à 3 reprises que dans les heures suivant ma visite, je me découvre des blessures dont elle m'avait averti. « Tu devrais porter du fuchsia, » continua Shanna. « C'est toi qui vis à l'extérieur. Alors viens peu, Adeline. Comme ça, tu auras peut-être des trucs intéressants à me raconter. Marre de ton boulot, de tes patients, de la lutte contre la douleur, bla bla bla. Et si tu me parlais plutôt d'un type aux muscles d'acier qui arrache un soutien-gorge fuchsia de ta maigre poitrine? Et là, ces petites visites mensuelles pourraient vraiment m'amuser. Mais est-ce que tu peux même baiser ?» Je ne répondis pas. Elle m'avait déjà posé cette question plusieurs fois. J'oubliais. Tu peux éprouver les sensations agréables, pas les désagréables. Alors pas de séance SM pour ma sœurette, j'imagine? Faudra repasser, mon pote. Shanna débitait cela d'une voix sans timbre. Ses attaques n'avaient rien de personnel. C'était dans son tempérament. Et ni la prison, ni les médicaments, ni même l'attention de sa sœur n'avaient pu y remédier. Shanna était une prédatrice de naissance, la fille de notre père. L'assassinat d'un petit garçon alors qu'elle n'avait que 14 ans l'avait envoyée en prison. Le meurtre d'une codétenue et de 2 gardiens avait signé son incarcération à vie. Est-il possible d'aimer une femme comme ma sœur? D'un point de vue professionnel, elle présentait un fascinant cas de personnalité antisociale. Complètement narcissique. Totalement dénuée d'empathie et extrêmement manipulatrice. D'un point de vue personnel, elle était la seule famille qui me restait. « Il paraît que tu t'es inscrite à un nouvel atelier », lançai-je. « La directrice dit que tes premiers tableaux montrent un grand sens du détail. » Shanna haussa les épaules. Elle ne savait pas recevoir les compliments. Elle huma de nouveau l'air. « Pas de parfum, mais une tenue stricte. » Donc tu travailles aujourd'hui? Tu vas aller directement à ton cabinet? Tu te mettras un coup de pchit dans la voiture? J'espère qu'il est assez fort pour couvrir l'odeur d'eau de prison. Je croyais que tu ne voulais pas parler de mon travail. Je sais qu'il n'y a aucun autre sujet de conversation possible. La pluie et le beau temps? Oh merde! C'est pas parce qu'on est lundi que je suis obligée de perdre 1 heure pour te donner bonne conscience. Je ne répondis pas. J'en ai ras-le-bol, Adeline. De toi, de moi, de ces visites, tous les mois, où tu viens me montrer tes goûts vestimentaires déplorables et où je n'ai pas d'autre choix que de rester là à endurer ce spectacle. T'as sûrement assez de patience pour me ficher la paix, alors casse-toi. Fous-moi le camp, je ne plaisante pas. On frappa des coups à la porte. Maria, qui voyait tout par la vitre incassable, prenait de nos nouvelles. Je n'y prêtais pas attention et gardais les yeux rivés sur ma sœur. Son accès de colère ne me faisait ni chaud ni froid. J'avais l'habitude de ses éclats.
La rage, arme défensive autant qu'offensive, était l'émotion préférée de ma sœur. D'ailleurs, elle avait de bonnes raisons de me haïr. Et pas seulement à cause de ma maladie génétique rare, ni parce que je m'étais déniché un riche bienfaiteur pour me recueillir, mais parce qu'à ma naissance, ma mère avait décidé de me cacher dans le placard et qu'il n'y avait pas eu la place pour deux. Shana m'invectivait, le regard empreint d'une colère sourde et d'une insondable déprime. Et moi, je me demandais ce qui avait bien pu se passer ce matin pour mettre ma sœur, pourtant si endurcie, dans cette humeur de chien. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» lui demandai-je. « Quoi ? Le fuchsia ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Mes vêtements, la couleur que je porte, si oui ou non ça me rend séduisante, en quoi ça t'intéresse ?» Shana me regarda, le front ridé par la perplexité. « T'es vraiment neuneux ou quoi ?» finit-elle par répondre. « Ah, enfin, tu me parles comme une grande sœur. » Ce trait d'humour fit mouche. Shana leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire. La tension retomba. Nous respirions toutes les deux plus librement. D'après la directrice de la prison, et même si elle essayait de donner le change, Shana se faisait une vraie joie de mes visites mensuelles. Au point que lors d'épisodes de rébellion caractérisés, la menace d'être privée de parloir était souvent la seule sanction suffisamment sévère pour la ramener à la raison. Nous continuions donc notre petit duo qui durait maintenant depuis une dizaine d'années. Peut-être ce qui se rapprochait le plus d'une vraie relation avec une psychopathe congénitale. « Tu dors bien ?» lui demandai-je. « Comme un bébé. Tu lis des trucs intéressants ?»« Bien sûr, les œuvres complètes de Shakespeare. On ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin d'un petit pentamètre iambique. »« Tu quoque mi fili ?» De nouveau un vague sourire. Shana se détendit encore sur sa chaise, et cela continua ainsi 30 minutes d'une conversation à la fois lourde de sous-entendus et sans consistance, comme tous les premiers lundis du mois. Jusqu'au moment où Maria toqua à la vitre pour signaler la fin du temps imparti. Je me levai. Ma sœur, qui n'allait nulle part, préféra rester assise. « Du fuchsia !» me recommanda-t-elle une dernière fois pendant que je reprenais ma veste noire. « Tu devrais peut-être suivre ton propre conseil et mettre un peu de couleur dans tes œuvres. » « Pour donner encore plus de matière au psy ?» répondit-elle avec un sourire en coin. « Je ne crois pas, non. » « Tu rêves en noir et blanc ? Et toi ? Je ne suis pas sûre de rêver. Peut-être que ça fait partie des avantages de ta maladie. Moi, je rêve un maximum, généralement en rouge sang. La seule chose qui varie, c'est la personne qui tient le couteau. Tantôt moi, tantôt notre cher papa. » Elle me regarda soudain avec des yeux cruels, des yeux de requin. Mais j'avais trop de bon sens pour mordre à l'hameçon. « Tu devrais tenir un journal de tes rêves. » lui suggérai-je. Et mes tableaux, c'est quoi à ton avis ? Une inquiétante explosion de violence viscérale. Elle rit. Et sur cette note, je me dirigeai vers la porte et la laissai derrière moi. Elle va bien ? Demandai-je une minute plus tard à Maria en lui emboîtant le pas dans le couloir. Le lundi n'était pas jour de parloir pour les détenus ordinaires et les couloirs étaient donc relativement calmes. « Pas sûr. Ce sera bientôt le 30e anniversaire, vous savez. » Je la regardai sans comprendre. « La première victime de Shana, » expliqua Maria. « Le petit voisin de 12 ans, Donny Johnson. La semaine prochaine, ça fera 30 ans que Shana l'a tué. Un journaliste a appelé pour demander une interview. » Je tiquai. Curieusement, je n'avais pas fait le rapprochement. En tant que thérapeute et femme qui passait sa vie à pratiquer l'autosurveillance, il allait falloir que je m'interroge. Quelle douleur avais-je ainsi voulu m'épargner ? Question paradoxale dans mon cas. « Mais elle refuse de répondre à la moindre interview, » continua Maria. « Tant mieux, si vous voulez mon avis. Le gosse ne peut plus parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que son assassin devrait le faire ?»«
Vous me tenez au courant ?»«
Pas de problème. » Je récupérai mon sac à main à l'accueil, signai le registre, puis me diriger vers ma voiture, garée sur l'immense parking, à plusieurs centaines de mètres du gigantesque bâtiment de briques et de barbelés où ma sœur résidait à demeure. Sur le siège passager m'attendait le cardigan d'une chaude couleur rose pourpre que je portais à mon arrivée. Mais avant de quitter ma voiture, j'avais changé de haut, retiré mes bijoux pour me conformer au règlement du parloir et opté pour une tenue neutre plus en accord avec l'environnement. J'avais donc mis de côté ce pull acheté 2 semaines plus tôt et qui se trouvait être, je le jure, le seul vêtement fuchsia de ma garde-robe. Je me retournai vers le pénitencier. Bien sûr, il était percé d'une multitude de fenêtres. Il y avait même une meurtrière dans la cellule d'isolement de ma sœur. Mais de là à me voir me contorsionner au volant derrière les vitres teintées de mon Acura, jamais je ne saurais tout expliquer dans la vie de ma sœur. Cela dit, elle devait souvent se faire la même réflexion à mon sujet. Je passai la première et repartis vers Boston, où m'attendait un après-midi chargé qui verrait se succéder des patients désireux d'être soulagés de leurs différents maux, et notamment une nouvelle patiente, une policière récemment blessée en service. J'adorais mon travail. J'aimais les défis. Et comme il convenait à une femme atteinte de ma pathologie, j'accueillais chaque patient avec un « Je vous en prie, parlez-moi de votre douleur ».